Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Je reçois aujourd'hui Christian Amalvi, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry à Montpellier III, pour nous parler du cardinal Mazarin, plus précisément de son image de grand ministre d'État du royaume, mais aussi pour nous le situer parmi les grandes figures historiques qu'ont été les grands commis de l'État en France. Christian Amalvi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé au très bel ouvrage collectif publié par les éditions Monel à Yo. Mazarin, les lettres et les arts, dirigé par Isabelle de Coniou, qui est conservateur en chef à la bibliothèque Mazarine, et Patrick Michel, professeur d'histoire de l'art. Alors l'ouvrage a réuni 34 auteurs qui abordent trois grandes parties. Mazarin et les arts, parce qu'il était grand collectionneur, mais aussi réellement amateur d'art. Mazarin et l'iconographie, c'est la seconde partie de l'ouvrage, avec également dans cette seconde partie un thème cher au cœur du cardinal Mazarin, à savoir les livres, et la troisième partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'historiographie de Mazarin. Et justement, c'est sur ce travail concernant l'image du cardinal que les historiens apportent leur regard, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes venu au micro de Canal Académie pour nous parler de l'image du cardinal Mazarin dans les manuels scolaires et la littérature de vulgarisation. Effectivement, vous avez écrit un chapitre dans cet ouvrage qui s'appelle « Le cardinal Mazarin dans les manuels scolaires et la littérature de vulgarisation de 1830 à 1990 ». Alors tout d'abord, pouvez-vous nous décrire les sources sur lesquelles vous avez travaillé ?
Tout à fait. Alors je suis parti de l'époque romantique, c'est-à-dire de l'époque avec la réforme de Guizot. On commence à se préoccuper donc de l'enseignement populaire. Il y a donc des manuels scolaires qui apparaissent, qui vont se développer dans la première moitié du XIXe siècle. Et puis parallèlement à ces manuels, dans la mesure où l'enseignement n'est pas encore obligatoire, il ne sera qu'à la fin du Second Empire et surtout avec Jules Ferry, vous avez quand même dans la société bourgeoise, et qui déborde largement d'ailleurs cette société bourgeoise, des livres de lecture et des livres de prix, comme vous l'avez dit, qu'on peut regrouper sous le terme de vulgarisation. C'est des livres écrits parfois par des universitaires, notamment des auteurs de la maison Hachette, et qui sont des biographies du cardinal Mazarin. Donc ce qui est intéressant, c'est donc j'essaie de rassembler l'image qu'on avait dans les manuels scolaires et dans ces biographies qui sont évidemment plus complètes puisqu'elles peuvent décrire la totalité de la vie, du destin du cardinal, alors que les manuels scolaires parlent surtout principalement de son œuvre comme ministre, comme principal ministre, disons depuis la mort de Richelieu jusqu'à sa propre mort, donc entre 1640 environ et 1660.
Et pour les sources du XXe siècle ?
Alors je dirais que pour les sources du XXe siècle, c'est un peu la même chose, c'est que c'est toujours les manuels scolaires d'enseignement primaire puisque ce sont ceux qui s'adressent à tous les Français, et complétés par, alors il n'y a plus de biographie au XXe siècle de Mazarin en tout cas qui s'adresse au peuple, mais ce sont des ouvrages collectifs, des ouvrages de lecture, et il y en a des dictionnaires par exemple, pour les enfants, pour les adolescents, le dernier étant daté de 1987. Donc ça complète là encore le manuel scolaire.
D'accord, mais il n'y a pas par exemple de prise en compte des manuels scolaires du secondaire ?
Non, parce que ceux-là sont quand même plus proches de l'université, donc on ne retrouve pas les clichés, les stéréotypes, si vous voulez, c'est des ouvrages déjà de réflexion de l'enseignement supérieur, on ne retrouve pas ce qu'on trouve dans le manuel du primaire, c'est-à-dire des jugements moraux.
Voilà. Bon,
le cardinal Mazarin, j'en reparlerai bien sûr, c'est évidemment le modèle à la fois du grand ministre, mais d'un ministre qu'on accuse parfois d'avoir confondu le trésor de l'État avec ses propres poches, ce qu'on ne dirait pas dans l'enseignement secondaire par exemple. C'est moins intéressant de ce point de vue-là. On voit beaucoup de cartes enseignement secondaire, on trouve des traités, l'examen des batailles, l'examen diplomatique.
Et c'est une histoire c'est moins... justement où le jugement moral n'intervient pas. On essaye de le faire comprendre aux élèves, c'est pour ça que je voulais vous faire préciser, parce que pour que nos auditeurs ne confondent pas les manuels scolaires, pensant aux générations jeunes, disons adolescentes, et là ça concerne le primaire. Le cardinal Mazarin est-il au programme dans le primaire aujourd'hui ?
Ah oui, tout à... Alors justement, c'est le grand problème. C'est qu'aujourd'hui, j'ai observé, je commence par ma conclusion, je dirais que depuis, disons, 1945, hein, il a, et surtout depuis les années 60, il a disparu vraiment des manuels scolaires. Avant, il figurait en grande place aux côtés des grands ministres du XVIIe siècle, de l'âge classique, c'est-à-dire Sully, Richelieu et Colbert. C'était les quatre as de la France, si je peux m'exprimer ainsi, au XVIIe siècle, ceux qui avaient contribué à la grandeur nationale avec les traités de Westphalie. Je dirais que, et c'est peut-être la rançon de la gloire, c'est-à-dire que jusqu'en, on parle de lui jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et nous verrons pourquoi, mais après, avec la construction européenne, il est évident que les traités de Westphalie, qui sont quand même le socle de la prépondérance française, sont jugés sans doute un peu obsolètes, et on préfère passer à autre chose. On préfère parler évidemment des questions de société, culture et société au XVIIe siècle, ou de la misère du peuple, plutôt que de Mazarin. Donc il disparaît un petit peu à la fin de la période.
Qu'est-ce que la littérature de jeunesse et les manuels scolaires ont retenu ou ont voulu retenir de Mazarin pour le transmettre à des générations d'élèves et au grand public ?
Alors je dirais qu'il y a deux choses justement, et c'est là l'intérêt de voir les livres de vulgarisation, c'est qu'ils sont peut-être plus que les manuels conditionnés par les problèmes contemporains, c'est-à-dire de l'époque où ils sont rédigés. Alors en gros, vous avez, il y a deux grandes choses. On voit d'abord, dans les manuels scolaires, il y a deux volets à propos de Mazarin. C'est-à-dire, il y a le volet intérieur et le volet extérieur. Alors le volet extérieur, on peut dire que dans les manuels confessionnels et dans les manuels laïques, et vous savez que la question religieuse occupe une place centrale entre les années de Guizot jusqu'à nos jours, jusqu'à la loi Debré de 1959, donc c'est quelque chose de fondamental, c'est un clivage fondamental. Donc on peut dire que sur la vision de la politique extérieure de Mazarin, il y a en gros vision unanime.
C'est-à-dire, sur l'action diplomatique,
sur le fait qu'il ait réussi à faire obliger, disons, l'empereur à signer les traités de Westphalie et qu'il ait contribué quand même à l'agrandissement du territoire national, avec notamment l'Alsace, qui est évidemment au XIXe siècle un problème central pour la France, surtout après 1870. Donc ça, c'est porté à son crédit. Que ce soit les manuels laïques, les manuels confessionnels, il y a unanimité, comme pour Richelieu d'ailleurs, on peut dire le parallèle, on en reparlera sans doute, le parallèle est vraiment tout à fait positif sur l'action du grand ministre à l'extérieur. En revanche, il y a des nuances très fortes qui vont jusqu'à des critiques très très dures à l'égard de l'avarice et puis le fait que sa politique extérieure a coûté très cher et que le peuple, ça a provoqué la fronde, ça a provoqué comme les récriminations et la révolte populaire. Et puis il y a aussi, on le dit, et peut-être qu'on le dit plus fort qu'à propos de Richelieu parce que Mazarin est italien, on dit tout de même qu'il s'est rempli les poches et que pendant que le peuple souffrait, lui se gobergeait. Bon, donc ça c'est avec des nuances, il y a cette deuxième vision.
Donc une image générale qui est double.
Alors, si vous voulez, c'est là que ce que j'ai dit dans ma communication, c'est là pour voir si c'est le bilan, et si j'ose dire globalement positif de Mazarin ou s'il est un petit peu négatif, ça dépend où on place la conjonction mais. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent son bilan est très positif, l'Alsace, les traités de Westphalie, mais quand même, à l'intérieur, ça pêche un petit peu. Et puis il y a ceux qui disent il s'est rempli les poches, il a laissé le peuple mourir de faim, il a provoqué la fronde par sa politique autoritaire, mais en définitive la grandeur de la France se rachète en quelque sorte. Donc selon que vous placez la conjonction mais et selon ce que vous articulez autour, vous avez une vision qui est très positive ou un petit peu critique. Mais en gros,
alors cette position critique, elle est développée dans quelle littérature ou dans quel milieu social ou destinée à quel public?
Alors vous avez raison de poser la question. Disons que je parle toujours des manuels scolaires. Disons que si on regarde, on pourrait penser a priori que les manuels confessionnels seraient plus favorables à un cardinal et que les manuels laïcs seraient plutôt critiques à l'égard d'un cardinal. Eh bien, c'est parfois, comme pour Richelieu, un petit peu une vision à front renversé. C'est-à-dire que les catholiques sont quand même très critiques à l'égard même de sa politique étrangère, parfois en disant quand même que les résultats sont positifs, certes, mais que pour parvenir au traité de Westphalie, il a fallu s'allier avec le diable. C'est-à-dire avec des protestants, avec les princes protestants de Suède, avec les princes protestants allemands, et que pour un cardinal de cette très sainte église catholique, apostolique et romaine, c'est pas très orthodoxe. Donc on lui fait comme des reproches. Inversement, des laïcs, qui sont pas des admirateurs inconditionnels d'un cardinal, vous me l'accorderez, eh bien, eux trouvent que le procédé, c'est un procédé au fond de politique réaliste, on se rappellerait de la réelle politique, eh bien, sont plutôt satisfaits et le crédit. Donc, on est un peu dans une position à front renversé. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les laïcs de se rattraper en insistant peut-être plus que les catholiques sur le prix qu'il a fallu payer, c'est-à-dire la misère du peuple, la fronde, etc., richesse personnelle.
Vous pourriez nous citer un ouvrage justement typique de cette représentation de cette ligne catholique inversement de cette ligne laïque.
Bon, alors, le manuel typique, c'est le manuel Lavis, c'est-à-dire qui est admiratif parce que c'est le manuel quand même qui vient après la guerre de 70 où la France a perdu l'Alsace. Donc il est évident que on ne peut que faire l'éloge de celui qui avait réussi à réunir l'Alsace à la France. Donc là, Lavis est évidemment grandiloquent par rapport à Mazarin, il le remercie. Bon. Mais il n'empêche qu'il est en même temps très critique sur son action intérieure en disant très explicitement Mazarin est responsable de la fronde. C'est lui qui, parce qu'il a une politique financière absolument abusive, outrancière à l'égard des paysans, les chargeant d'impôts, bon, ça finit par exploser, c'est lui qui porte la responsabilité. Inversement, les frères des écoles chrétiennes, par exemple, qui sont en usage évidemment dans les, donc dans les campagnes, notamment dans l'Ouest, eh bien, tout en étant admiratif devant l'œuvre, regrettent, déplorent ouvertement qu'on n'ait pas tenu compte des intérêts du pape dans l'affaire de Westphalie et qu'on se soit allié avec des princes protestants. Il y a quand même cette alliance. Quant aux misères populaires et à la fronde, bon, ils sont moins critiques que la vie, il faut bien le reconnaître.
On a un nom d'ouvrage de manuel
Les Frères des Écoles Chrétiennes, c'est des ouvrages collectifs. C'est donc c'est des ouvrages anonymes. Par définition, il peut y avoir éventuellement un directeur de collection, mais là, c'est vraiment Les Frères des Écoles Chrétiennes, et c'est devenu ensuite au XXe siècle une réunion de professeurs.
Alors, est-ce que l'image de Mazarin est-elle similaire dans les ouvrages de vulgarisation par rapport à son image dans les manuels scolaires?
C'est important, en effet. Alors, elle n'est pas vraiment différente, mais disons que d'abord, les manuels sont obligés de passer vite puisqu'il y a un programme très chargé, donc ils insistent sur la politique diplomatique et sur la fronde. Bon, et sur le bilan. En revanche, les livres de vulgarisation racontent la vie de Mazarin, donc depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc il y a toute une partie italienne qui n'apparaît pas ou très peu dans les manuels scolaires. Donc ils peuvent développer, et parfois ils s'amusent à montrer qu'il ne parlait pas très bien le français, on se moque un petit peu de ses déformations. Mais surtout, là, et le jugement moral qu'il porte, bon, ne diffère pas énormément. En revanche, ce qui est intéressant de remarquer, c'est la date de publication, parce que là, ils sont très fortement marqués par la période de publication. Par exemple, les manuels qui sont publiés, il y a un manuel de Corne, une biographie qui est publiée chez Hachette au début du Second Empire. Eh bien, on voit très, entre les lignes, qu'il y a une sorte de parallèle entre la Fronde, ce que les Français donc ont vécu à cause de Mazarin au XVIIe siècle, et la Révolution de 48. Et en quelque sorte, il y a un parallèle presque explicite entre Mazarin, qui a vaincu la Fronde, qui a réussi à tenir bon et à vaincre la Fronde, et Napoléon III, et qui a vaincu la Révolution de 48, et on dit, au fond, on fait un parallèle en disant, au fond, Mazarin a sauvé la société de la fronde, de l'anarchie, de la subversion révolutionnaire au XVIIe siècle, comme Napoléon III vient de sauver la France de la République et de l'anarchie qui est consécutive aux journées de juin. Donc on voit tout à fait. Bon, vous avez également un autre parallèle, c'est après 70, on le voit très bien dans les biographies qui sont publiées chez Hachette également, mais après 1870, où évidemment on fait un parallèle et qui est à l'avantage de Mazarin en disant, ben, ce que Mazarin avait réussi à gagner, c'est l'Alsace, eh bien la France, l'Empire l'a perdu, donc il faut reconquérir ce que Mazarin nous a légué. Mais ça va parfois très vite. D'ailleurs, on retrouve aussi des parallèles intéressants, même dans les manuels scolaires du XXe siècle. Par exemple, sous Vichy, il y a un livre de Bernard Fay, et celui-là, il est très important, puisque vous savez que Bernard Fay était professeur au Collège de France, qu'il était très anti-maçonnique, et qu'il a remplacé Julien Quin à la tête de la Bibliothèque nationale de France de manière très scandaleuse et très injuste, puisque Julien Quin a été sanctionné par Vichy parce que tout simplement il était juif, et Bernard Fay l'a remplacé. Bien, Bernard Fay écrit en 42-43 un manuel primaire où il fait un parallèle, pratiquement, en disant, au fond, ce que les Français ont vécu avec le Front populaire, c'est un petit peu la Fronde, c'est la réactualisation de la Fronde. Et au fond, il dit, en quelque sorte, à ses jeunes lecteurs, le maréchal Pétain a sauvé la France et du Front populaire et de la défaite, dont le Front populaire était responsable, évidemment, et comme Mazarin a sauvé la France de l'anarchie révolutionnaire après au moment de la Fronde. Donc, vous voyez, tous ces parallèles qui vont venir aussi bien dans les manuels scolaires que dans les livres de vulgarisation au 19e ou 20e siècle.
Il y a un petit point qu'on a un petit peu abordé, mais je voudrais qu'on en parle. Les origines italiennes de Mazarin ont-elles été un facteur de dévalorisation de son image? En trouve-t-on trace justement dans les manuels scolaires au 19e, au 20e? C'est une question que je vous pose. Et puis à quelle période de l'histoire de France, justement, est-ce que ça a été mis en avant? Et puis à partir de quand on l'a justement complètement occulté, ignoré? D'autant qu'aujourd'hui, il n'est peu étudié, c'est plutôt une figure oubliée, et que justement ce livre Mazarin, les lettres et les arts nous fait redécouvrir.
Alors je veux dire, c'est une question intéressante. On aurait pu penser là que c'était une image au fond dévalorisante. On a l'image de l'italien fourbe, etc. Bon, mais je dirais que c'est plus complexe, parce que alors l'image est surtout, c'est plutôt au 19e siècle qu'on en parle, après au 20e siècle ça disparaît effectivement. Dans les manuels scolaires de l'époque romantique jusqu'au début de la Troisième
République.
C'est même l'époque où on en parle le plus. Non. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects. Aussi bien, d'ailleurs, il n'y a pas de fossé confessionnel. C'est aussi bien les catholiques que les laïcs en parlent. Alors, il y a la foi. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'image humoristique. On se moque un petit peu de lui en disant, bon, il est d'origine italienne. C'est quelqu'un qui sait pas, qui parlait bien le français, mais qui faisait encore, là, on dit, par exemple, il disait, quand il parlait d'union, il disait oignon. Alors, ça faisait rire tout le monde et la vis souligne.
Voilà.
Donc, on retrouve ce côté un peu humoristique. En disant il n'est pas tout à fait français. Mais en même temps, et ça c'est important, je dirais, on met à son crédit quand même aussi le fait que, étant italien, Et on le distingue soigneusement de Richelieu par exemple, en disant qu'il avait une intelligence diplomatique, il avait une subtilité justement très italienne pour rouler dans la farine ses adversaires, notamment dans les questions diplomatiques, quand il avait affaire à des gens plus forts que lui. Eh bien, il paraissait faible, il paraissait être toujours vaincu, et puis il retombait comme un chat toujours sur ses pattes. Et ça, on le met au crédit de sa nature italienne. C'est quelqu'un qui est toujours dans toutes les situations les plus embarrassantes, se débrouille toujours pour retomber sur ses pieds et rouler dans la farine l'adversaire. Et on ajoute que finalement, et c'est à son crédit, on dit au fond que s'il est parvenu au résultat quand même glorieux du traité de Westphalie, c'est parce que justement, on laisse entendre que c'était un Italien qui savait tirer les ficelles où il fallait, que dans la fronde, il paraissait toujours vaincu et qu'en définitive, c'est lui qui s'en tire, que les autres condés, etc., sont tous obligés de se soumettre, c'est lui qui a réussi à s'imposer. Et puis, on termine quand même souvent, et je crois que c'est Lavis qui le dit, et la plupart des autres auteurs soit le disent, soit le laissent entendre, que en définitive, quels que soient les défauts, et Dieu sait si Emmanuel les souligne, notamment au XIXe siècle, on dit que s'il ne savait pas toujours très bien s'exprimer en français, son cœur était devenu français. Donc ça, c'est important. Je dirais que l'aspect italien, en définitive, peut paraître au départ dévalorisant, et qu'en définitive, ça s'avère un atout. Voilà. Hein, c'est plutôt un atout dans
son...
C'est quelqu'un qui est d'une imagination extraordinaire et qui est toujours capable de tirer le meilleur profit de son intelligence pour rouler l'adversaire, pour tromper l'adversaire.
Et ce qui reste quand même un cliché.
C'est sûrement un cliché, mais en tout cas, ce cliché n'est pas nécessairement, comme on aurait pu le penser, dévalorisant. Je crois qu'il y a un petit peu, on pourrait le rapprocher de Louis XI, l'araignée qui finalement trompe l'adversaire. Mais c'est positif, puisque c'est pour le bien de la France.
Comment les manuels d'histoire catholique se sont accommodés de la morale de Mazarin ?
Ben justement, il s'en accommode difficilement parce qu'il lui reproche évidemment, même si c'est de manière moins aiguë que les manuels laïcs, d'avoir un petit peu confondu sa fortune avec le trésor de l'État, d'avoir un petit peu mélangé les caisses. Bon. Mais je crois que surtout, ce qui passe le plus mal chez les catholiques, c'est l'alliance avec les protestants. Parce que là, ils considèrent au fond qu'un cardinal, donc un dignitaire de l'Église, se doit de défendre la politique de l'Église. Non seulement d'ailleurs de l'Église universelle, non seulement la religion catholique, mais aussi cette idée, et n'oublions pas que nous sommes au XIXe siècle dans une Église qui est très ultramontaine, le catholicisme français n'est plus le catholicisme gallican qu'il était avant 1830, à l'époque de Monseigneur Affre, par exemple. Bon, c'est un clergé qui est rallié entièrement à Pie IX et à l'ultramontanisme. Donc, il y a aussi l'idée que, en faisant cette alliance avec les princes protestants, non seulement c'était le catholicisme qui était visé, mais c'était aussi le pape, c'était la politique pontificale, c'était aussi Rome en tant que capitale de l'univers chrétien, qui était mise en cause, qui était affaiblie. Et ça, c'est quelque chose à laquelle les catholiques sont sensibles, même si, en conclusion, ils reconnaissent tout de même que la France sort grandie grâce à lui. Et bon.
Est-ce que dans les manuels de morale de la Troisième République, est-ce que l'image de Mazarin était utilisée ou
non,
pas
je, Non, quand je, même je pas. Dirais qu'elle n'est pas utilisée parce que ça serait trop compliqué à expliquer. Ouais. Autant, par exemple, on en reparlera sans doute tout à l'heure, Colbert est vraiment un exemple de morale qu'on peut citer dans tous les manuels, dans tous les livres, aussi bien d'histoire que de morale que de littérature.
D'accord, mais pas Mazarin.
Mazarin, non,
donc,
parce que
donc son image était quand même globalement positive.
Elle est globalement positive, avec les réserves que j'ai dites, c'est-à-dire le peuple a souffert, alors que chez Colbert, même si nous savons aujourd'hui, comme l'histoire a rétabli, qu'il n'était pas le saint de vitrail que l'on prétendait être par rapport à Fouquet notamment, mais il n'empêche que c'est un homme qui incarne effectivement l'ordre, le travail, l'effort, l'épargne, etc. Mazarin, c'est absolument impossible, donc on préfère n'en parler que dans le cadre de l'histoire et dans le cadre de l'histoire diplomatique.
Christian Almalvi, je vous remercie. Je vous propose de marquer une courte pause musicale et de vous retrouver dans quelques instants pour évoquer les grandes figures de l'histoire de France, les grands ministres du Royaume de France et leur image dans les manuels de vulgarisation et les manuels scolaires. On retrouve Christian Almalvi, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Montpellier III. pour évoquer avec nous les grandes figures historiques qui ont servi le royaume de France. Alors, nous avons évoqué le cardinal Mazarin, mais justement, la figure de Mazarin est souvent mise en parallèle avec une figure tout aussi célèbre, celle de Richelieu, du cardinal Richelieu. Il y a un lien réel d'abord entre les deux hommes, bien entendu, puisque l'autre a permis à l'autre de lui succéder. Mais on a là aussi deux images contraires pour bien des générations, et j'aimerais peut-être que vous développiez justement l'image de Richelieu qui s'est peut-être inscrite justement par rapport à celle de Mazarin ou
alors,
pas
enfin, Richelieu est
commençons
premier.
D'abord par
c'est complexe,
décrire son image.
Disons que Richelieu a des atouts et Mazarin a aussi par rapport à lui. Se situe pas tout à fait sur le même plan. Disons que effectivement vous avez raison, on rappelle que c'est Richelieu qui a inventé, qui est l'inventeur en quelque sorte de Mazarin. Mais disons que Richelieu a plusieurs atouts que n'a pas Mazarin. D'abord le fait qu'il soit français, on précise, là il n'y a plus... Et je dirais que c'est important parce que ce qu'on reproche à Mazarin d'avoir volé les caisses de l'État par exemple pour s'enrichir lui-même, on le dit mais de manière beaucoup moins vive à l'égard de Richelieu. Nous savons que Richelieu avait aussi une fortune et les manuels, même les manuels laïcs les plus intransigeants, ne sont pas trop sensibles à cet aspect-là parce que Richelieu, comme c'est aussi l'incarnation de la grandeur, donc il respecte le personnage parce qu'il est français, plus qu'il est Mazarin parce qu'étant italien, on lui prête peut-être un peu plus de désordre ainsi dans sa vie privée. Bon. Alors, ce qui est important pour Richelieu, c'est que Richelieu, il apparaît vraiment, que ce soit dans les manuels laïcs, il apparaît comme la préfiguration de la Convention. C'est-à-dire que c'est un homme qui, au nom de la raison d'État, prend des mesures qui sont effectivement des mesures très dures, bon, à l'égard des... Mais comme c'est à l'égard des méchants seigneurs, les interdictions des duels, qui fait décapiter Saint-Mars, qui fait décapiter donc des gens qui ont trahi, eh bien, les laïcs trouvent qu'au fond, il se comporte à lui tout seul, comme va se comporter plus tard la Convention, c'est-à-dire prendre des mesures de salut public, tout simplement. Alors, évidemment, c'est un point de vue qui n'est pas partagé par les manuels confessionnels, mais qui trouve que Mazarin n'a pas tort non plus de défendre l'État, et que même s'ils n'ont pas les mêmes arguments que les manuels laïcs, sont d'accord pour reconnaître que c'est un grand serviteur de l'État et qu'il a un rôle positif. Alors, on retrouve évidemment le clivage dont on parlait à propos de Mazarin. C'est-à-dire que Richelieu s'est allié au prince protestant d'Allemagne, s'est allié au roi de Suède, protestant, et ça lui est reproché. Ça lui est reproché quand même dans des termes peut-être un peu moins vifs que pour Mazarin, parce qu'il est français et que donc ça joue moins, la critique est moins forte à son égard, mais elle est présente.
Et puis parce qu'il a lutté aussi contre les protestants.
Vous avez raison de dire, c'est vrai que ça peut compenser. Mazarin est accusé souvent à mots couverts d'avoir favorisé, au moins d'avoir laissé tranquilles les protestants, alors que Louis XIV, vous savez, fera la révocation de Nantes, oui. Et que, effectivement, lorsque le cardinal Richelieu prend s'empare de La Rochelle, eh bien, les catholiques sont évidemment satisfaits. Les laïcs le sont pour d'autres raisons, parce que c'est la réaffirmation de l'État, c'est tout simplement l'unité nationale qui prime tout, donc qui passe avant tout le reste. Donc, effectivement, vous avez raison, dans la balance, l'alliance avec les protestants, au fond, est combattue par la lutte contre le protestantisme à l'intérieur des frontières, à La Rochelle. Alors, ce que Richelieu a de plus, par rapport à Mazarin, c'est quand même, il y a une sorte de légende quand même, d'épopée. N'oublions pas que dans ces manuels scolaires, ce qui compte, c'est les images fortes. Il y a des moments où le héros s'impose par une action d'éclat.
On est dans les manuels scolaires de la Troisième République, là.
Voilà, absolument. Et vous savez que, par exemple, pour Mazarin, des actions d'éclat, il y a l'affaire de Casals, quand il est un légat pontifical, je crois. Mais ça appartient pas vraiment à l'histoire de France. Donc on en parle très peu dans les manuels scolaires. Donc c'est quelque chose qui est présent dans les biographies, dans les livres de vulgarisation, mais pas dans les manuels scolaires. Donc Mazarin, il apparaît dans les manuels comme l'homme qui est à son cabinet de travail, en train de travailler, en train de préparer ses alliances, ses négociations diplomatiques. C'est pas quelque chose qui favorise la légende, qui favorise l'épopée. En revanche, il y a quand même plusieurs images fortes liées à Richelieu, et notamment la principale, celle que les manuels scolaires ont vulgarisée. C'est celle de Richelieu sur la digue de La Rochelle, en train de défier l'océan, en train de défier la flotte anglaise, avec sa cotte de maille, avec son camail de cardinal, avec en plus le père Joseph à ses côtés, ce père Joseph qui fait un petit peu aussi sourire et en même temps qui est admiré. Voilà une image forte qui est une des principales images des manuels scolaires, toute période confondue, et qu'on ne peut pas associer à Mazarin. Donc là, je dirais que Richelieu marque un point, si j'ose dire, dans ce panthéon. Il est vraiment l'homme de terrain qui est allé se battre sur le terrain, défier ses adversaires et les vaincre. Bon, donc il y a probablement aussi, même si on n'en parle pas, je pense quand même qu'il y a les souvenirs comme d'Alexandre Dumas. N'oublions pas que Richelieu, ça renvoie quand même à une littérature qui est celle-là, une littérature de divertissement que tous les Français ont lue, qui est celle d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires. Alors, vous me direz, évidemment, 20 ans après, Vicomte de Bragelonne, c'est aussi Mazarin. Mais on voit apparaître Mazarin, bien sûr. Mais c'est pas comme le grand livre, c'est les Trois Mousquetaires, c'est D'Artagnan, c'est la jeunesse des Mousquetaires, c'est quand ils sont jeunes. Donc c'est quand même la lutte entre les Trois Mousquetaires et Richelieu. C'est un personnage à leur mesure, qu'ils peuvent défier. Donc, on est vraiment dans la légende. Et ça, je crois que c'est au crédit du cardinal de Richelieu, alors que Mazarin est un petit peu, je dirais, en dessous. Ceci dit, il a aussi quand même un atout à faire valoir. Mazarin, par rapport à Richelieu, c'est quand même lui qui termine l'œuvre. C'est-à-dire que les traités de Westphalie, c'est lui qui les achève. Donc, je dirais pas match nul, je dirais que dans les deux personnages, il y a peut-être une légère supériorité à l'égard de Richelieu par rapport à Mazarin, parce qu'il est français, parce qu'il préfigure la Convention, parce qu'il est l'œuvre, il réalise l'unité nationale, tout simplement. Et qu'il n'a pas le côté diviseur qu'a Mazarin avec la Fronde. Si on fait le plateau dans la balance, il est légèrement en faveur de Richelieu, sans doute, même si, je répète, Mazarin ne démérite pas, parce que le traité de Westphalie, les traités de Westphalie, c'est à son crédit.
Et dans les traités de vulgarisation ?
Alors, l'image de Richelieu est la même, simplement, elle est davantage amplifiée, elle est davantage développée.
Voilà, on développe toute la vie du personnage, elle est amplifiée. Alors, puisque vous nous parlez comme ça des grands serviteurs de l'État dans les manuels de vulgarisation et les manuels scolaires, enfin, on ne les appelait pas les manuels de vulgarisation, mais
les livres de lecture,
qu'en est-il, par exemple, de Colbert ?
Alors, Colbert est un personnage très intéressant, parce que en apparence, quand on lit les manuels scolaires, les livres de vulgarisation, qu'ils soient confessionnels ou qu'ils soient laïcs, à première lecture, on a l'impression qu'ils disent tous la même chose. C'est-à-dire, c'est le personnage édifiant. Là, il est à la fois un personnage remarquable sur le plan historique, il y a un bilan impressionnant sur le plan du commerce, de l'industrie, de la marine. Bon, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est lui qui a remis les choses en place, alors que Mazarin ne s'intéressait pas du tout à ces affaires-là. Bon. Mais en même temps, il est aussi intéressant parce que c'est...
Et d'ailleurs, pour faire le lien historiquement, il entre au service du roi à la mort de Mazarin.
Emmanuel le rappelle. Et le met d'ailleurs au crédit de Mazarin en disant « Mais Mazarin disparaît, mais il lègue à Louis XIV son meilleur serviteur. » Donc c'est aussi au crédit de Mazarin quelque part. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a une continuité parfaite entre Richelieu qui a en quelque sorte promu Mazarin au moment de disparaître et puis Mazarin qui donne à Louis XIV les moyens d'avoir un conseiller exceptionnel qui va l'aider dans sa politique. Et alors, Colbert est à la fois édifiant par son bilan historique, mais il est aussi édifiant sur le plan des valeurs, notamment que la Troisième République, les fameux hussards noirs de Jules Ferry, vont diffuser, vont distribuer, vont vulgariser, vont défendre dans la société française, c'est-à-dire le goût du travail bien fait, le goût de l'épargne, un sou est un sou, on ne dépense pas de l'argent, etc. Et puis on travaille énormément, on se tue au service de l'État. Bon, tout ça, c'est bien. Mais, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Parce que, à lire attentivement, et là, les livres de vulgarisation, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient laïcs, sont tout à fait intéressants, montrent qu'il y a quand même des divergences importantes. En apparence, tout est parfait, on dit la même chose dans les deux camps. En réalité, on dit des choses tout à fait différentes. Il y a des révélateurs, on rejoint d'ailleurs un petit peu Sully, dont on parlera sans doute, c'est tout à fait différent. Alors, la différence, c'est que d'abord, il y a un partage très net, quand on prend les manuels laïcs, et surtout les livres de vulgarisation laïque, hein, une sorte de frontière, mais très nettement tracée, avant et après 1683, c'est-à-dire avant et après la mort de Colbert. Au fond, pour les manuels laïcs, Colbert, c'est le bon génie de Louis XIV. C'est-à-dire que pendant qu'il est Premier ministre, en gros, pendant 20 ans, des années 1660, à sa mort, et on dit qu'il est mort au travail, qu'il s'est tué au travail, et qu'il a en plus été victime de l'ingratitude du roi, qui n'a même pas été reconnaissant. Bon, donc, c'est une pierre dans le jardin de la monarchie. Donc, pendant ces 20 ans où Colbert est aux affaires, on peut dire que c'est le côté positif du règne. Colbert protège les protestants et on dit même explicitement que Louis XIV n'ose pas les chasser parce que Colbert est là pour les protéger. Parce que, effectivement, ce sont des gens actifs, des commerçants, et qui contribuent à la grandeur et à la prospérité de la France. Donc, au fond, Colbert a réussi à remettre les affaires de la France en ordre après la crise de la Fronde. Et lorsqu'il meurt, eh bien, c'est la catastrophe parce que la deuxième période va être dominée par Louvois, qui, chez les laïcs, est un personnage très mal vu parce qu'il va donner, il va au fond encourager les mauvais penchants de Louis XIV, c'est-à-dire le penchant pour la guerre, le penchant pour la gloriole, le penchant pour le panache militaire. Et ça va conduire aux catastrophes, ça va conduire à la misère populaire, ça va conduire aux défaites, ça va conduire à l'affaiblissement de la France. Donc Colbert, c'est vraiment le bon génie, c'est le côté positif de la France. Il y a derrière tout ça aussi un deuxième aspect qui est...
On le retrouve dans les manuels catholiques.
Alors,
les manuels laïcs,
cette frontière n'apparaît pas. Colbert est félicité par les catholiques, il n'y a aucun problème, mais les catholiques ne considèrent pas du tout que la mort de Colbert soit une catastrophe. Et ça, c'est le mauvais côté de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté ses confesseurs, il n'a pas écouté l'Église catholique qui donne de bons conseils, et qu'il a laissé parler ses propres penchants qui étaient mauvais. Bon, mais les catholiques ne lui reprochent pas d'avoir révoqué l'île de Nantes, bien au contraire, même s'ils n'approuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas non plus, ils se rendent bien compte que c'est une erreur, mais disons qu'il n'y a pas de partage chronologique entre avant et après Colbert, alors que chez les laïcs, c'est très net. En revanche, ce qui est la deuxième aspect, que je reviens aux laïcs, qui est très important, c'est que Colbert, au fond, c'est la préfiguration de la bourgeoisie au pouvoir. Au fond, les auteurs de manuels disent aux enfants, vous voyez, quand c'est un bourgeois, et Colbert, on souligne, alors là, les origines sociales, le fils du marchand de draps de Reims, au grand vêtu, ça c'est souligné dans tous les manuels scolaires. Le manuel de Aymar chez Hachette montre d'ailleurs deux gravures, je m'en souviens, je les ai vues quand j'étais enfant. Il y a l'image de le long vêtu à la maison paternelle à Reims, c'est-à-dire le Colbert père dans sa boutique, on montre qu'il travaille, etc., et que son fils a bien intériorisé les valeurs domestiques et qui va ensuite les mettre au service de la France. Et la deuxième image en dessous, c'est Colbert au travail qui, au fond, accomplit sa tâche comme son père, mais cette fois-ci, c'est au service, non pas d'une famille, mais au service de la France. Donc, au fond, ça indique à l'enfant que quand la bourgeoisie est au pouvoir, incarnée par Colbert, eh bien, ça marche, la France fonctionne. Et dès que c'est le roi tout seul, Louis XIV, qui reprend, ou Louis XV au XVIIIe siècle, c'est-à-dire quand c'est la monarchie absolue qui n'est pas contrôlée, qui n'a pas de conseiller issu du peuple, eh bien, c'est la catastrophe. Et ça justifie donc la mort de Colbert et le passage d'un conseiller positif à un roi qui va gouverner tout seul sans conseiller, ou à de mauvais conseillers comme Louvois, qui l'entraîne à des catastrophes, eh bien, ça justifie la Révolution française. On voit par là comment le même personnage positif dans les deux camps peut avoir des résonances tout à fait différentes sur le plan politique, avec chez les catholiques répondent en disant mais la preuve, le fait que Colbert soit devenu le principal ministre de Louis XIV, eh bien ça prouve une chose, c'est que cet ancien régime n'est pas si mauvais qu'on le dit, puisqu'on nous dit toujours que le peuple était écrasé d'impôts, que le roi gouvernait tout seul, que c'était les aristocrates qui gouvernaient. Ben, la preuve, c'est pas vrai, puisque Colbert a pu, tout en étant issu du peuple, gouverner, être le principal ministre Louis XIV. Donc ça montre bien que cet ancien régime n'est pas, comme le décrivent les manuels, les adversaires de la monarchie, les partisans de la Révolution, quelque chose qui est tout noir. Ça permet de nuancer cette image. Chez les laïcs, au contraire, ça permet de justifier la prise de pouvoir de la bourgeoisie laïque à partir de 1789. On peut dire que
Colbert... À partir de quand les manuels scolaires ont... par exemple, abandonner cette position ?
Oh là, je dirais au XXe siècle. Alors après, ça devient un cliché.
Mais dans les années 1930, elle était encore présente ?
Je pense que oui. Jusqu'en 1940, ça tient. Je dirais que tant
donc
que
sur la première moitié du XXe siècle.
Oui, je dirais que tant que la République divise
Toute
les Français,
la durée de la Troisième République.
Toute la durée de la Troisième République. Tant que la République divise les Français, qu'il y a quand même des ligues minoritaires, mais qui considèrent que la République, c'est la gueuse, donc qui n'ont qu'une envie, c'est lui faire la peau, et ils prendront leur revanche avec Vichy. Donc tant qu'il y a des gens qui en veulent à la République, considère que c'est un régime qui n'est pas légitime, eh bien l'image de Colbert dans les manuels républicains, les manuels de Hachette notamment, est une image qui montre que Colbert préfigure la Troisième République. Elle préfigure au fond les bourgeois que sont Jules Ferry, Jules Grévy, Gambetta, Clémenceau, c'est-à-dire des grands serviteurs de l'État. Même si ce n'est pas dit explicitement, on peut le lire entre les lignes. Il n'y a aucun problème.
Christian Amalvi, je vous propose de marquer une courte pause musicale et je propose à nos auditeurs de vous retrouver dans quelques instants. Nous retrouvons Christian Amalvi, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry à Montpellier III, pour nous parler aujourd'hui à Canal Académie de l'image du cardinal Mazarin dans les manuels scolaires du 19e et les livres de vulgarisation du 19e et du 20e siècle, mais aussi pour évoquer avec nous l'image d'autres grands serviteurs de l'État. Nous parlions tout à l'heure précédemment de Colbert. Nous allons donc évoquer la fin de Colbert. Comment l'image de la mort de Colbert est-elle présentée dans les manuels scolaires et dans les livres de vulgarisation ?
C'est un autre clivage, on peut dire que c'est un peu le révélateur de notre clivage, qui est celui des sentiments religieux. Les manuels confessionnels sont très attentifs à la mort de Colbert et mettent l'accent sur sa fin édifiante en disant que il préfère à ce moment-là être le serviteur de Dieu plutôt que celui du roi. Le roi envoie un message, il dit « mais ça m'intéresse plus, je suis déjà dans un autre monde ». Et on insiste lourdement sur cette fin édifiante, évidemment. Dans les manuels laïcs, on insiste au contraire sur l'ingratitude du roi. On dit que Colbert est mort désespéré parce que le roi n'aurait pas pas marqué sa reconnaissance comme il aurait dû le faire à l'égard d'un grand serviteur auquel il devait tant de choses. Et ça montre, et c'est un peu la transition avec l'autre personnage que nous allons évoquer, c'est-à-dire donc Sully, c'est l'importance quand même des clivages religieux. L'image de Sully est intéressante parce que c'est un petit peu comme Colbert, l'image d'un personnage tout à fait consensuel entre le camp laïque et le camp confessionnel, mais il ne faut pas oublier que Sully est protestant. Et évidemment, les catholiques n'accordent pas une grande importance, ils n'en parlent pas. En fait.
Vous nous parlez de Sully justement parce que...
C'est le premier des grands serviteurs, c'est celui qui va inaugurer cette galerie, qui commence donc avec lui.
On revient chronologiquement en avant.
On retombe sur nos pieds. Mm-hmm. Et n'oublions pas aussi que c'est à la fois un personnage important, parce que c'est à la fois le premier des grands serviteurs de l'âge classique. Il va y avoir ensuite Richelieu, Mazarin et puis bien sûr Colbert. Mais c'est aussi, il inaugure également une autre galerie qui est celle des couples célèbres qui vont diriger la France. Il y a Henri IV et Sully, il y a Louis XIII et Richelieu, et puis il y a Colbert et Louis XIV. Bon, Mazarin est un cas un peu exceptionnel puisqu'il assure la régence entre la mort de Louis XIII et de Richelieu et la maturité de Louis XIV.
C'est d'autant plus juste qu'à la mort d'Henri IV, Sully sera mis à l'écart.
Absolument, il est mis à l'écart par la régente, en effet, et il va en avoir, comme vous le savez, beaucoup d'amertume. Et l'Emmanuel souligne que c'est une catastrophe, parce que lui, il gérait bien la France comme la gérera bien Colbert ensuite, et qu'après lui, ça va être encore l'anarchie pendant un certain temps. Donc Sully est intéressant parce que, en apparence, l'image que l'Emmanuel confessionnel et laïque donne de lui, donne de son action, est tout à fait comparable. Il y a vraiment des éloges, tout le monde le couvre d'éloges, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'agriculture, et nous savons que la France de l'époque, c'est une France encore largement agricole, c'est l'époque de Méline, et on laisse entendre au fond que Sully, c'est un peu le Méline de l'époque. Bon, la France, également, il y a un parallèle entre l'époque où vit Sully, où vive d'ailleurs Henri IV, parce que Sully est indissociable du destin d'Henri IV, naturellement. Il y a un parallèle entre donc l'action du roi et de son bon ministre, Sully, et un parallèle aussi avec la situation de la France au début de la Troisième République. La France sort de la défaite de 1870, elle en sort exsangue, elle en sort blessée, elle en sort traumatisée, et n'oublions pas que la France d'Henri IV et de Sully sort des guerres de religion également, traumatisée, humiliée, et donc il y a un parallèle en quelque sorte, la France de la Troisième République
sur le plan économique,
vous avez raison, les campagnes sont ruinées, la France est ruinée, sont ruinées, et donc il y a un parallèle en disant aux enfants, voyez, nous sommes au fond dans la situation où étaient nos ancêtres avec Sully, et grâce à lui, les Français s'en sont tirés, donc sous-entendu, grâce à Méline, grâce à Jules Ferry, la France s'en sortira aussi. Donc il y a ce parallèle. Mais on se rend compte très vite qu'il y a tout de même des clivages, que si l'Emmanuel en parle de manière positive et de manière assez bienveillante avec les mêmes termes, il y a quand même des petits clivages intéressants qui sont très révélateurs des passions quand même de l'époque de la Troisième République. D'abord le fait que chez les catholiques, on ne reproche pas Sully au fond d'être réformé, c'est en grande partie probablement parce qu'il appartient à la grande noblesse. Donc ceci compense un petit peu cela. Donc c'est un noble, il fait partie, donc il est naturel qu'il soit au service d'Henri IV. Le fait qu'il soit protestant, c'est aussi un argument que font valoir les catholiques après tout, en disant aux républicains, vous reprochez l'intolérance de la France d'Ancien Régime à l'égard des protestants, vous avez tort, puisque, regardez, Sully a été le principal ministre d'Henri IV alors qu'il était protestant, ce qui prouve bien que cette société n'est pas aussi intolérante que vous le dites. Inversement, chez les laïcs, on souligne quelque chose qui passe totalement inaperçu dans les manuels confessionnels, c'est la Saint-Barthélemy. On rappelle lourdement dans les manuels laïcs que le jour de la Saint-Barthélemy, Sully n'a dû la vie sauve qu'à son sang-froid. Il est sorti dans la rue avec un missel richement illustré, et quand il a croisé des fanatiques en train de qui massacraient, qui égorgeaient les protestants, eh bien, avec son livre d'heures, il est passé inaperçu, on l'a dit, papa, on a cru que c'était un catholique, et on l'a laissé passer. Et donc, c'est à mettre, évidemment, c'est une pierre qui est jetée dans le jardin des catholiques, en disant, vous parlez de Sully, vous dites que c'est la preuve que l'Ancien Régime était tolérant, oui, la preuve, c'est que si Sully n'avait pas été de sang-froid, cet adolescent n'avait pas de sang-froid, il aurait été égorgé comme ses frères le jour de la Saint-Barthélemy, donc, en fait, de tolérance, voyons-y de plus près. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que les catholiques mettent l'accent sur le fait que Sully s'appelle en fait Rony, duc de Sully, donc il appartient à la noblesse, il est donc tout à fait à sa place aux côtés d'Henri IV, alors que chez les laïcs, on parle de Sully tout court. On ne parle pas de Rony, duc de Sully, on parle de Sully tout court. Et donc il y a une ambiguïté qui est voulue, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à la noblesse ou est-ce que c'est quelqu'un qui est une sorte de bourgeois. Et le fait qu'il soit habillé de manière très sobre, puisque c'est quelqu'un qui fait tout le temps des remontrances au roi pour l'argent qu'il dépense, mais c'est quelqu'un qui incarne cette vertu qui est si chère.
La tendance, les finances, la bonne gestion.
Oui, mais aussi, les habits font le moine, c'est-à-dire que Sully est présenté comme quelqu'un qui est sobrement vêtu, qui a une vêtue, je dirais, la tenue un petit peu des protestants de l'époque, c'est-à-dire une tenue noire, sans ornement, etc. Et on dit, mais c'est bien, c'est quelqu'un qui met sa vie en pratique avec ses principes. Il défend l'ordre, il défend l'économie, il rappelle au roi qu'il ne faut pas dépenser d'argent en vain, eh bien, il met ses principes en accord à sa vie plutôt d'accord avec ses principes. Et donc tout ça, ça montre quand même qu'il y a des clivages importants. J'irai plus loin. Quand on lit dans les livres de lecture et dans les livres de les biographies de Sully, on se rend compte que du côté, il y a au fond un clivage de fond, que Sully est un peu le révélateur du grand clivage entre la vision, la conception de la société de l'Ancien Régime chez les catholiques et chez les laïcs. Et je crois que c'est un peu le plus intéressant. C'est que pour les catholiques, au fond, Sully est au service d'Henri IV. C'est-à-dire que le personnage principal dans l'affaire, c'est quand même Henri IV, et c'est la figure du père. C'est-à-dire la société est perçue comme une grande famille, dont le roi est le père naturel. Bon. Et Sully est donc, en quelque sorte, l'intermédiaire, on dirait aujourd'hui l'interface entre le roi, le père de ses sujets, et ses sujets. Bon. Ça, c'est la vision d'une société paternelle, c'est la vision des monarchistes et des catholiques. Et puis, il y a la vision de la société laïque. Et elle n'a rien à voir avec ça, même si les images sont semblables, même si les anecdotes qu'on prête aux uns aux autres sont les mêmes. En réalité, il y a une vision tout à fait différente et même conflictuelle. Dans les manuels laïques, je dirais que la vision de la société à l'époque de Henri IV de Sully, c'est la ruche. C'est-à-dire que la société doit privilégier ceux qui, comme les abeilles, travaillent, c'est-à-dire le peuple, la bourgeoisie, ceux qui sont positifs. Et Sully est en quelque sorte le chef de cette ruche. Mais dans une ruche, vous savez qu'il y a des frelons. Les frelons, c'est ceux qui sont des parasites que les abeilles chassent. Eh bien, les frelons, et c'est dit en toutes lettres chez Lavis, c'est dit en toutes lettres dans la biographie que Lavis a consacrée à Sully, car la seule biographie populaire qu'il a écrite, elle est sur Sully, dans la bibliothèque des écoles et des familles, chez Hachette. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien là la pensée de Lavis par rapport à, non seulement à Sully, mais par rapport à l'Ancien Régime. Et il considère au fond que cette société, elle doit fonctionner sur le modèle de la ruche où tout le monde a sa place, tout le monde travaille pour le bien commun, et ceux qui ne travaillent pas pour le bien commun, eh bien, ils doivent partir. Et de même que les abeilles chassent les frelons, on justifie ainsi la politique de Sully qui était très dure à l'égard des nobles oisifs, hein, qu'il essayait de domestiquer, et puis surtout on justifie la politique de la Révolution en disant mais au fond la Révolution n'a fait qu'accentuer la politique de Sully en chassant ces gens qui ne servaient à rien et qui compromettaient la prospérité, la grandeur de la France.
Alors Christian Amalvi, quelle est l'image justement, alors dans les ouvrages contemporains pour la jeunesse, par exemple, de Colbert ou de Sully qu'on a évoqué?
Alors je dirais qu'aujourd'hui c'est soit réduit à une anecdote dans le cas de Colbert. Dans le cas de Sully, c'est plus intéressant parce que vous savez qu'on retombe sur ces clichés, la poule au pot. Alors, oui. Ce qui est intéressant dans les manuels que j'ai observés jusqu'aux années 70-80, c'est que pendant
très longtemps... Donc là, vous parlez des manuels
du
primaire.
Je parle des manuels du primaire. J'ai surtout parlé des manuels du primaire. Mmh. Dans les manuels d'aujourd'hui, je dirais que l'image que l'on avait autrefois sous la Troisième République qui montrait l'action de Sully, labourage et pâturage, etc., la poule au pot du dimanche, bon, dont on créditait Sully et Colbert, était très importante à l'image de la France rurale de l'époque de Jules Béline et de Jules Ferry. Bon. Aujourd'hui, en fait, on a une autre image, même dans les manuels qui s'adressent donc aux enfants, on voit très nettement que c'est une sorte de parenthèse heureuse. Disons que dans le meilleur des cas, effectivement, Sully et Henri IV ont pu avoir une action positive, mais c'est une simple parenthèse dans un océan qui est très négatif pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a cette image qui se développe au lendemain des années 1940, où au fond, il y a une grande coupure, c'est la modernisation. C'est-à-dire que là, on plaint les gens d'avoir vécu à l'époque où ils ont vécu, parce que c'était une époque de famine, de disette, etc.
Alors, comment sont-ils présentés ?
Et alors, ben, on présente Sully comme quelqu'un qui a rétabli une situation, comme une sorte... Avant, c'était terrible, c'était la guerre de religion, donc les paysans crevaient de faim. À cause de la politique de Louis XIV, des guerres de Richelieu, de Mazarin, va retomber dans la famine, dans la misère. Et puis, il faut attendre, en fait, l'époque moderne, la République, pour que le peuple soit remis à sa place, pour que le peuple mange à sa faim. Et donc, au mieux, Sully est présenté comme quelqu'un qui a permis une parenthèse très brève, alors qu'auparavant, on présentait ça comme une sorte de vision héroïque de la paysannerie au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on est revenu un petit peu à une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus négative.
Aujourd'hui, dans les années 1980, l'an 2000...
Oui, c'est ça. Alors, après, j'ai l'impression que Sully disparaît un petit peu. Là, il faudrait, je n'ai pas vu les manuels les plus récents, mais là, je parle des années 70-80. Mm-hmm. J'ai l'impression que le mythe de Sully a été un petit peu écorné par rapport à la Troisième République.
Christian Amalvi, comment les figures de ces grands serviteurs de l'État, Colbert, Sully, Richelieu, Mazarin, ont-elles été évoquées justement dans les manuels scolaires des années 70-60 et comment aujourd'hui, ou sont-elles encore évoquées aujourd'hui dans les manuels scolaires ?
Bon ben, je vais être clair, bon, pour Mazarin, il n'est plus évoqué, et pour les autres, je crois que c'est vraiment des figures qui sont maintenant passées au second plan. Bon, depuis une quarantaine d'années, disons, on va dire que les grands héros de l'histoire de France ont un peu disparu, ces grands ministres bon, n'ont plus la même actualité, c'est clair.
Christian Amalvi, merci d'être venu au micro de Canal Académie nous parler justement de la figure de Mazarin dans les manuels scolaires du 19e siècle et du 20e siècle et dans les ouvrages de vulgarisation et d'avoir évoqué aussi la figure d'autres grands serviteurs de l'État dans les mêmes sources. Merci d'être venu pour cette émission Un jour dans l'histoire.
C'est moi qui vous remercie.